carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Julie Deveau.
Bonjour et bienvenue dans cette quatrième émission consacrée au bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin. Jean-Pierre Grévois, grand mélomane et auteur du livre « Moi, Jean-Sébastien Bach », toujours à nos côtés dans les studios de Canal Académie, continue à nous livrer au travers des écrits du compositeur la vie de Frédéric Chopin. Jean-Pierre Grévois, bonjour.
Bonjour.
Alors nous avions laissé Chopin fin 1836 avec ses premières impressions sur George Sand. Pouvez-vous nous en rappeler les différentes lignes, s'il vous plaît ?
Oui, d'autant plus que c'est assez amusant. Je vais vous citer la première lettre dans laquelle Chopin parle de George Sand et voilà en quels termes. « J'ai fait la connaissance d'une grande célébrité, Madame Dudevant, connue sous le nom de George Sand. Mais son visage ne m'est pas sympathique et ne m'a pas plu du tout. Il y a même en elle quelque chose qui m'éloigne. » Le reste de la lettre est perdu, mais ça c'est quand même assez extraordinaire de voir la manière dont Chopin juge George Sand la première fois qu'il la voit. Nous n'avons malheureusement pas de lettres de Chopin et donc nous ne connaissons pas comment ont évolué ses sentiments au début de sa relation avec George Sand. Simplement, j'ai retrouvé au détour d'une lettre une jolie phrase. L'aurore, vous savez que c'était le prénom de George Sand, l'aurore était noyée dans la brume hier, j'espère qu'il y aura du soleil aujourd'hui. Cette phrase est assez amusante parce qu'elle est assez équivoque, elle peut être interprétée d'un tas de façons différentes. Et alors, on retrouve Chopin donc, en compagnie de George Sand fin 1838. Il part pour Majorque avec George Sand, mais ce qu'on sait peut-être moins bien, c'est qu'ils sont accompagnés des deux enfants de George Sand, qui l'un s'appelle Maurice et il a 15 ans, et l'autre s'appelle Solange et elle a 10 ans. Donc ce n'est pas du tout un voyage entre amoureux. George Sand emmène ses deux enfants dans ce voyage.
Parce que normalement, on pense toujours qu'ils sont en couple et qu'ils sont tous les deux à Majorque.
On pense au voyage romantique entre amoureux idéalisés et tout, mais ce n'est pas du tout ça. Voilà, donc à son arrivée à Majorque, voilà ce qu'il écrit à son ami Julien Fontana, cet ami qu'on retrouve toujours tout au long de sa vie. Palma, le 15 novembre 1838. Mon bien cher, je suis à Palma, au milieu des palmiers, des cèdres, des cactus, des oliviers, des orangers, des citronniers, des aloès, des figuiers, des grenadiers, enfin de tous les arbres que possèdent les serres du jardin des plantes. Curieuse référence d'ailleurs que celle du jardin de plantes. Le ciel est de turquoise, la mer de lapis-lazuli, les montagnes d'émeraude et l'air est comme au ciel. Du soleil toute la journée, tout le monde est vêtu comme en été car il fait chaud. La nuit, on entend des chants et le son des guitares pendant des heures entières. Il y a d'énormes balcons d'où des pampres retombent. Les remparts datent des Arabes, la ville et tout ici en général reflète l'Afrique. Bref, une vie admirable. Aime-moi. Fais une petite visite à Pleyel car le piano n'est pas encore arrivé. Par quelle voie me l'a-t-on expédié ? Tu recevras bientôt les préludes. Je vais probablement habiter un cloître merveilleux dans le plus beau site du monde. J'aurai la mer, les montagnes, des palmiers, un vieux cimetière, une église teutonique, les ruines d'une mosquée, des oliviers millénaires. Je suis près de ce qu'il y a de plus beau au monde. Je me sens meilleur. Parle peu de moi et à nos connaissances. Je t'écrirai bientôt plus longuement. Dit que je rentrerai à la fin de l'hiver, nous n'avons qu'un seul courrier par semaine. Alors, dans cette lettre, il y a une chose assez intéressante, c'est que la volonté de discrétion de Chopin sur sa relation avec George Sand, dont on verra que ça va beaucoup se transformer. Et alors, c'est là qu'il fait allusion au prélude.
Donc, nous allons, si vous le voulez bien, écouter l'un de ses premiers préludes composés par Chopin. Nous allons par ailleurs vous faire écouter plusieurs extraits de ses préludes, tous terminés à Majorque en 1839. Ce premier prélude est le prélude opus 28 numéro 11 en ré bémol majeur.
Thank you.
Alors, le pauvre Chopin a vraiment pas de chance parce que quelques jours après son arrivée, il tombe malade. Et voici comment il décrit sa maladie. Toujours avec ce brin d'ironie qui est tout à fait caractéristique chez lui. Chopin à Julien Fontana, Palma, le 3 décembre 1838. J'ai été malade comme un chien ces deux dernières semaines. J'avais pris froid en dépit des 18 degrés de chaleur, des roses, des orangers, des palmiers et des figuiers. Trois médecins, les plus célèbres de l'île, m'ont examiné. L'un a flairé mes crachats, l'autre a frappé pour savoir d'où je crachais, le troisième m'a palpé en écoutant comment je crachais. Le premier a dit que j'allais crever, le deuxième que j'étais en train de crever et le dernier que j'étais crevé déjà.
Je vous coupe deux secondes, mais il est ironique en étant malade et on voit toujours cette fragilité.
C'est ça qui est extraordinaire. C'est un langage à la limite de la vulgarité qu'il a, mais il reste quand même le Chopin éternellement élégant dans son expression. C'est à grand-peine que j'ai pu échapper aux saignées, aux vésicatoires et aux enveloppements, et grâce à la Providence, je suis aujourd'hui redevenu moi-même. Pourtant, ma maladie a fait tort au prélude que tu recevras Dieu sait quand. J'irai habiter dans quelques jours la plus belle région du monde. J'y aurai la mer, les montagnes, tout ce que tu peux imaginer. Je logerai dans un vieux cloître, énorme et abandonné. C'est près de Palma et rien n'est plus beau. On y voit des arcades les plus poétiques, des cimetières. En un mot, j'y serai bien. Curieux ce rapprochement entre des cimetières, en un mot, j'y serai bien. Mais je n'ai pas encore le piano. J'ai écrit directement à Pleyel. Ne dis pas aux gens que j'ai été malade, car ils en feraient des commérages. Encore là, cette volonté d'être discret et de ne pas répandre de faux bruits sur lui. Alors vous allez voir que quand il arrive à Valdemossa, il est un petit peu d'une humeur différente par rapport à ces dithyrambes qu'il avait émis avant.
Et comme il parle de ce fameux prélude, nous allons tout de suite l'écouter. Il s'agit du prélude opus 28 numéro 16 en fa dièse mineur.
Donc alors Chopin est arrivé à Valdemossa et voilà ce qu'il écrit à son ami Fontana le 28 décembre 1838 depuis Valdemossa. Tu peux m'imaginer entre les rochers et la mer dans une cellule d'une immense chartreuse abandonnée aux portes plus grandes qu'aucune porte cochère de Paris. Je suis là sans frisure, ni gants blancs et pâle comme à l'ordinaire. Ma cellule en forme de grand cercueil a une énorme voûte poussiéreuse. Une petite fenêtre donnant sur les orangers, les palmiers, les cyprès du jardin. Face à la fenêtre, sous une rosace filigranée de style mauresque, un lit de sangle. À côté du lit, un vieil intouchable, sorte de pupitre carré, mal commode, pour écrire, et sur lequel est posé un chandelier de plomb avec grand luxe pour ici une bougie. Sur ce même pupitre, Bac, mes grimoires, et d'autres papiers qui ne sont pas à moi. Silence. On peut crier. Silence encore. En un mot, je t'écris d'un endroit bien étrange.
Il semble un peu déboussolé puisqu'il a l'habitude d'être élégamment habillé. Alors là, il n'est sans frisure ni gants blancs et pâle comme à l'ordinaire. Et ce qui est étrange, c'est qu'il fait toujours cette allusion à Bach auquel il reste éternellement fidèle.
Ah oui, puis vous allez voir que ce n'est pas terminé, il va en reparler encore dans d'autres lettres.
Alors après cette lecture, je vous propose d'écouter le prélude opus 28, numéro 20, en do mineur.
Alors, fin janvier 1839, les préludes sont terminés et il les envoie à Pleyel et en parlant de ce qu'il appelle ses affaires. À Pleyel, Valdemossa, le 22 janvier 1839. « Je vous envoie enfin mes préludes que j'ai finis sur votre pianino, arrivé dans le meilleur état possible malgré la mer et le mauvais temps et la douane de Palma. J'ai chargé Fontana de vous remettre mon manuscrit. J'en veux 1500 francs pour la France et l'Angleterre. Probst, comme vous le savez, en a pour 1000 francs la propriété pour Hertel en Allemagne. Je suis libre d'engagement avec Wessel à Londres, il peut payer plus cher. Puisque vous avez voulu, chérissime, prendre la corvée d'être mon éditeur, il faut que je vous avertisse qu'il y a encore des manuscrits à vos ordres. Premièrement, la ballade, qui entre encore dans les engagements Probst pour l'Allemagne. Cette ballade, j'en veux 1000 francs pour la France et l'Angleterre. Deuxièmement, deux polonaises dont vous connaissez une en là, j'en veux 1500 francs pour tous les pays du globe. Alors, tout d'un coup, on passe de la France, de l'Angleterre au globe, et puis maintenant, on va venir à l'Europe, vous allez voir. Troisièmement, un troisième scherzo, même prix que les polonaises pour toute l'Europe. Une tarification assez étrange. Cela vous arrivera sur le dos, si vous le voulez, de mois en mois, jusqu'à l'arrivée de l'auteur, qui vous dira plus qu'il ne sait écrire. Les postes sont ici d'une organisation merveilleuse. J'attends depuis 3 mois une lettre des miens de Varsovie. Et les vôtres, Madame Pleyel, Monsieur, Madame Desnoyers, dites-leur à tous les meilleurs souhaits pour l'année 39. J'attends une lettre de vous, toute petite, et vous aime, comme toujours, votre tout dévoué, Frédéric Chopin. Pardonnez-moi mon orthographe. Je m'aperçois que je ne vous ai pas remercié pour le piano et que je ne vous parle que d'argent. Décidément, je suis un homme d'affaires.
Alors, Monsieur Grévois, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est un pianino, s'il vous plaît ?
Un pianino, c'est en gros l'ancêtre du piano droit. Et Pleyel avait lancé un modèle, pianino Pleyel, qui apparemment marchait très bien. Et puis, il est un petit peu normal qu'il lui ait envoyé un piano droit à Majorque, parce que c'était d'un transport quand même beaucoup plus facile.
Alors, comme il parle beaucoup des prix de ses préludes, les préludes lui semblent vraiment tenir à cœur. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait du prélude numéro 3, opus 28, en ré mineur.
Thank you.
Et alors, il va se passer encore une chose très pénible pour Chopin, qui est soumis à un régime auquel il n'est pas habitué du tout, un régime alimentaire et un régime climatique et un rythme de vie auquel il n'est pas habitué. Il va tomber très malade, et si bien que toute la petite équipe, George Sand, ses deux enfants et Chopin, vont quitter Majorque pour aller à Marseille au bout de 4 mois. Et ils vont rester à Marseille 3 mois. Ça aussi, c'est une chose qu'on ne sait peut-être pas assez, c'est que ce fameux voyage à Majorque n'a duré en réalité que 4 mois et qu'ils sont restés 7 mois absents, dont 3 mois à Marseille. Il écrit à son ami Fontana pour lui dire qu'il se sent mieux en avril 1839. « Mon cher ami, je me sens beaucoup mieux. Je commence à jouer, à manger, à marcher et à parler comme tout le monde. Tu vois que j'écris même facilement puisque tu commences à recevoir de nouveau quelques mots de moi. » Mais c'est encore pour affaire. Je tiendrais beaucoup que mes préludes fussent dédiés à Pleyel. La ballade à M. Robert Schumann, les polonaises à toi, comme il était convenu, à Kessler, rien. Si Pleyel tient à la ballade, alors dédie les préludes à Schumann. Alors vous voyez comme l'histoire de la musique tient un peu de choses, il s'en est fallu d'un rien que les préludes de Chopin soient dédiés à Schumann.
Tout à fait. Et on retrouve cet humour puisqu'il se sent mieux. On retrouve bien cet humour quand il dit « je commence à jouer, à manger, à marcher et à parler comme tout le monde ».
Absolument. C'est à la fois d'un naturel et d'une sincérité absolue dans ses lettres. Il ne cherche pas à se cacher, jamais. Il cherche vraiment, ce que je vous disais dans la dernière émission, il cherche à éprouver au moment même où il écrit ce qu'il éprouve, sans arrière-pensée.
Jean-Pierre Grévois, vous nous parlez de Chopin, mais Georges Sand, dans tout ça, comment vit-elle sa relation avec le compositeur ?
Ah ben ça, je ne vais pas vous le dire, puisque c'est des lettres de Chopin que nous lisons. Si vous voulez lire l'intégrale de la correspondance de Georges Sand, je vous souhaite bien du plaisir, parce qu'elle avait une plume extrêmement prolixe, mais c'est très intéressant de faire le parallèle avec les lettres qu'elle écrit à cette époque-là. Mais enfin, il fait allusion à Georges Sand d'une manière touchante dans une lettre qu'il adresse à son ami Albert le 12 mars 1839, donc toujours de Marseille, et qui montre toute la vénération qu'il a pour Georges Sand. « Ma santé s'améliore de jour en jour. Les vésicatoires, la diète, les pilules, les bains, et plus que tout, les soins infinis de mon ange c'est bien sûr Georges Sand, m'ont remis sur pied, sur des jambes un peu maigres. » De Marseille, nous comptons gagner Nohant, où l'air d'été me fera beaucoup de bien. Nohant, comme vous le savez, c'est la demeure familiale de George Sand et des ancêtres de George Sand. J'ai maigri et pâli terriblement, mais maintenant je mange beaucoup. Ajoute à ma toux habituelle tout le mal que m'ont fait les Espagnols et les multiples agréments éprouvés là-bas. Sans cesse, je la voyais inquiète de moi. Elle devait me soigner toute seule, car Dieu nous préserve des médecins du pays. Je la voyais faire mon lit, ranger la chambre, préparer les tisanes, se priver de tout pour moi, ne recevant aucun courrier, veillant sur les enfants qui avaient constamment besoin de son regard aimant dans des conditions de vie inusitées. Ajoute à cela qu'elle écrivait. Alors, vous voyez que c'est assez touchant la manière dont il parle de George Sand. Et alors ailleurs, toujours à son même ami Albert, qui était en même temps donc l'ami de George Sand, il dit une phrase que je trouve très jolie. « mes anges, c'est pas l'oiseau, hein, c'est M-E-S-A-N-G-E-S, mes anges terminent leur nouveau roman, Gabriel. Tu sais, tu l'aimerais encore beaucoup plus si tu la connaissais comme je la connais maintenant. »
Est-ce que ça veut dire que l'entourage de Frédéric Chopin n'appréciait pas réellement George Sand ?
Hein, je vous laisse votre jugement, mais enfin, c'est un petit peu comme le système du vedettariat, si vous voulez. C'était une femme extrêmement connue à ce moment-là, et ce que Chopin a peut-être voulu dire, c'est que c'est une femme célèbre, mais quand on gratte un peu la personne, quand on va un petit peu au fond d'elle-même, c'est une femme extraordinaire. Je crois que c'est plutôt ça qu'il a voulu dire. Mais effectivement, c'était une sorte de personnage officiel, et les gens qui l'abordaient ne pouvaient pas apprécier ce qu'elle était vraiment. Alors donc, il écrit à son ami Fontana et pour lui dire la chose suivante. « J'écris à présent une sonate en si bémol mineur où se trouvera la marche que tu connais. Cette sonate comprendra un allegro, un scherzo en mi bémol mineur, la marche et un bref final, 3 pages peut-être de mon écriture. Après la marche, la main gauche joue à l'unisson avec la droite. J'ai composé un nouveau nocturne en sol majeur Il fera la paix avec celui en sol mineur, tu te le rappelles. J'ai aussi 4 nouvelles mazurkas, une en mi mineur écrite à Palma et 3 que j'ai composées ici. Elles me paraissent jolies comme leurs enfants. Les plus jeunes semblent beaux aux parents qui vieillissent. Hein, je trouve que c'est une formule charmante. Elles me paraissent jolies comme leurs enfants les plus jeunes semblent beaux aux parents qui vieillissent. Pour moi-même, je revois l'édition parisienne de Bach. Vous voyez, je vous avais dit qu'on reparlerait de Bach. Je revois l'édition parisienne de Bach. J'y corrige non seulement les fautes du graveur, mais aussi celles accréditées par des musiciens qui passent pour comprendre Bach. Sans toutefois avoir la prétention de le connaître mieux et de le comprendre mieux, mais avec la conviction de le deviner parfois. Et voilà, je me suis encore une fois vanté devant toi.
Nous allons donc écouter cette sonate dont parle Chopin, c'est, je vous le rappelle, la sonate opus 35 en si bémol mineur. Il s'agit du 3e mouvement.
À propos de cette marche, je vous ferai remarquer que dans sa lettre, Chopin ne parle absolument pas de marche funèbre. Elle est connue comme étant une marche funèbre, mais Chopin, dans sa lettre à Fontana, parle de marche.
Mais Chopin et George Sand ne peuvent rester indéfiniment à Nohant. Jean-Pierre Rivaud, ils doivent tout de même gagner leur vie. Seront-ils à Paris de temps à autre ?
Bien oui, ils sont bien obligés, parce que ce n'est pas les maigres droits. Vous avez vu les prix que j'ai cités pour les préludes, par exemple 1500 francs. Je vous rappelle que ça fait à peu près 3700 euros pour les préludes de Chopin. Il avait donc besoin de donner des leçons, dont Georges Sand a fait grimper le prix de 20 à 25 francs de l'heure. Et puis, il faut aussi que Georges Sand soit à Paris, puisqu'elle est écrivain, il faut qu'elle ait des contacts avec la bonne société parisienne. Donc, ils reviennent à Paris. Et il demande, Chopin, avant de revenir à Paris, demande à son éternel ami Fontana d'étudier comment on peut aménager son appartement. Alors, Frédéric Chopin à Julien Fontana, le 25 septembre 1839 à Nohant. « Mon âme, merci d'avoir une si brave âme d'ami. Choisis un papier semblable à celui que j'avais autrefois chez moi, couleur tourterelle, mais qu'il soit brillant et glacé. » Faisant tapisser les deux pièces avec une bordure vert sombre, pas trop large. Pour l'antichambre, choisis autre chose, mais que ce soit bien aussi. Si d'autres papiers plus jolis et à la mode te plaisent et d'après toi me plairaient, prends-les. J'aime mieux que ce soit simple, très modeste et très propre, plutôt qu'ordinaire et épicier. J'aime la couleur perle parce qu'elle n'est ni vulgaire ni criarde. Je te remercie d'avoir pensé à une chambre pour le domestique. C'est très utile. J'aime beaucoup cette formule. Et je te remercie d'avoir pensé à une chambre pour le domestique. C'est très utile. Pour les meubles, tout sera bien puisque tu t'en occuperas. Aussi vrai que je t'aime, toujours ce besoin d'affection. Aussi vrai que je t'aime, je n'osais te charger de ce nouveau tracas. Mais comme tu es si gentil, rassemble-les et fais-les mettre en place. Trouve-moi un valet et embrasse Madame Léo. Comme la première de ces missions te sera sans doute la moins désagréable, je te dispense de la seconde si tu t'acquittes de l'autre. Si Moscheles, alors Moscheles était un virtuose du piano et compositeur tchèque de l'époque, si Moscheles est déjà à Paris, fais-lui donner un clistère au moyen des oratorios de Neuikomm, assaisonné du Cellini de Berlioz et du concerto de Deller. Il ira à coup sûr à la garde-robe. Si l'idée est bizarre, il faut avouer qu'elle est originale. Fais servir à déjeuner à Jeannot, Jeannot c'est son ami médecin, des moustaches de sphinx et des rognons de perruche à la sauce tomate. Le tout saupoudré de petits œufs du monde microscopique et prends toi-même un bain d'infusion de baleine pour te reposer de toutes les commissions dont je t'ai chargé. Mais je sais que tu me rends volontiers service autant que tes préoccupations te le permettent et que tu fais pour moi de grand cœur ce que je ferai de même pour toi quand tu te marieras. Alors tout ce passage-là est une plaisanterie parce que Fontana n'a pas du tout l'intention de se marier. Mais vous voyez, tout d'un coup, il s'emballe dans un ton fantaisiste absolument extraordinaire. Il se lâche complètement, quoi, alignant les mots et les formules drôlatiques. C'est extraordinaire. Et alors, donc, à son retour de Nohant, Chopin compose 3 nouvelles études. Alors, c'est des nouvelles études qui font partie d'un recueil qui s'appelle « La méthode des méthodes ». C'est une œuvre collective à laquelle participent pas moins de Liszt, Mendelssohn, Cramer et donc Chopin. Vous voyez que c'est un recueil qui est quand même assez prestigieux.
Alors donc, nous allons écouter une de ces études, vous êtes d'accord ? Il s'agit de l'étude opus posthum numéro 1 en fa mineur.
Alors en 1841, il compose une tarentelle. C'est une des rares œuvres à propos de laquelle il donne beaucoup de détails d'écriture musicale. C'est dans une lettre à l'éternel Fontana qu'il écrit cela. Vous allez entendre qu'il fait en particulier référence à Rossini. Donc Frédéric Chopin, Julien Fontana à Paris, le 20 juin 1841. « Je t'envoie une tarentelle ». Aie l'amabilité de la recopier, mais auparavant, va chez Schlesinger consulter la meilleure édition du recueil de chants de Rossini où se trouve la tarentelle en la. Je ne sais si elle est en 6-8 ou en 12-8. Cela peut s'écrire des deux manières, mais je préférerais que la mienne le fût comme celle de Rossini. Et ça, je me suis longtemps demandé pourquoi, mais je ne comprends pas pourquoi il veut que sa tarentelle soit écrite comme celle de Rossini. Enfin, au même rythme, tout au moins. Alors, si cette dernière est de 12-8, ou si ce qui est possible en 4 groupes de 3 croches, fais lorsque tu recopieras une mesure de 2. Je te prie aussi de vouloir bien écrire toutes les mesures plutôt que de mettre les signes pour celles qui se répètent. Vous voyez comme il est pointilleux, hein ? Dépêche-toi et remets cette tarentelle à Léon. Celui-ci, tu le sais, doit quitter Hambourg avant le 8 du mois prochain et je ne voudrais pas perdre 500 francs. Si la mesure indiquée, il y revient encore, si la mesure indiquée sur mon manuscrit est inexacte, ne le donne pas, recopie-le une deuxième fois, puis une troisième. Que cela va t'ennuyer de recopier toutes ces saletés, mais j'ai bon espoir de ne plus rien écrire d'aussi mauvais de longtemps. Alors vous allez voir ce qu'il trouve mauvais.
Alors voici cette heure qu'il qualifie de mauvaise. Il s'agit de la tarentelle en la bémol majeur, opus 43.
Il y a un autre aspect de Chopin auquel je voudrais faire allusion. Je vous ai déjà parlé de ses talents de mime et de caricaturiste, mais c'est le côté extrêmement acerbe des jugements qu'il peut faire sur les gens. Et en voici un exemple. Il nous parle ici d'Antoine. Il se trouve que cet Antoine, c'est le frère de son ancienne fiancée Marie, vous savez, avec laquelle il a vécu cette aventure, en particulier à Dresde, aventure apparemment toute platonique.
Ce que nous verrons à la prochaine émission.
Absolument. Et qui est à Paris et est tombé amoureux d'une certaine mademoiselle de Rosière. Ne te fais nul reproche, aime-moi, toujours cette volonté d'affection, aime-moi et écris. Si Antoine n'est pas encore parti, laisse les choses telles qu'elles sont, autrement ce serait pire. Il raconterait tout à Mademoiselle de Rosières, car il est confiant et si faible. Quant à elle, indiscrète et s'affichant volontiers son intimité avec lui et s'immisçant non moins volontiers dans les affaires des autres, elle colporterait tous ses propos et, ce ne serait pas la première fois, elle ferait d'une grenouille un bœuf. Entre nous, c'est un insupportable cochon qui, de façon étonnante, a su se glisser dans mon enclos pour y remuer la terre et chercher des truffes jusque parmi mes roses. C'est une personne à laquelle on ne devrait rien confier car elle est d'une indiscrétion monstrueuse. Une vieille fille, enfin. Nous autres, vieux cavaliers, nous valons mieux. Alors, quand il est à Paris, Chopin, maintenant, s'affiche ouvertement avec George Sand. Ils sont même un des couples en vogue de l'époque. Et cela ne l'empêche pas d'être toujours confronté à des problèmes d'affaires, comme il dit. Et il en profite pour affirmer sa volonté de ne pas faire ce qu'il appelle du médiocre. Et alors, le fragment de lettre qui va suivre est très intéressant parce que ça montre que Chopin appartient vraiment au mouvement romantique parce que c'est pas du tout comme les musiciens du 18e et du début du 19e où ces musiciens cherchaient à produire pour vivre. Donc il y a cet aspect romantique de vouloir. Et alors, ça se mesure par le fait très curieux que je me suis amusé à calculer, c'est que tout l'œuvre de Chopin dure 18 heures, un peu plus de 18 heures. Alors que des gens comme Bach, comme Beethoven ou Mozart, ou même Schubert qui est mort très jeune aussi, comme Mozart, ça se mesure en centaines d'heures. Et Chopin, 18 heures. Et alors donc, peut-être une des explications, c'est cette volonté de ne pas faire du médiocre. Voilà la lettre dans laquelle il en parle, donc qui est adressée toujours à son ami Julien Fontana, le 18 octobre 1841. Il parle d'un certain Masset qui est un de ses éditeurs. « Je veux simplement que Masset ne puisse pas me prendre pour quelqu'un n'observant pas ses engagements. Il n'y a entre nous qu'une convention tacite d'honnête homme à honnête homme, alors qu'il ne se plaigne pas de mes conditions. Et d'autant moins qu'elles sont modérées et que je n'ai rien publié depuis longtemps. Je ne désire qu'une chose, me tirer convenablement de cette situation. Je sais que je ne me vends pas, mais tu peux lui dire que si je voulais profiter de la situation ou en abuser, j'écrirais tous les ans 15 choses médiocres qu'il m'achèterait à raison de 300 francs et que cela me ferait un plus gros revenu. Mais serait-ce honnête, dis-lui, mon cher, que j'écris peu et publie peu, qu'il ne s'imagine pas que je veux me faire valoir, mais lorsque tu verras par toi-même mes pattes de mouche sur mes manuscrits, tu reconnaîtras que je peux en exiger 600 francs. Alors là, par patte de mûche, il entend qu'il a une grande difficulté à écrire. Quand on voit ses partitions, elles sont raturées, effectivement. Il y a des pâtés d'encre, etc. Et il revient, il remet indéfiniment sur l'ouvrage ses œuvres. Et il semblerait même que, pris d'une inspiration, il écrit brutalement quelque chose. Et puis, il y revient, il fait des ratures. Finalement, il revient à la version initiale, après avoir fait un retour et une nouvelle recherche. Et on verra après qu'il en reparle de ça. « Tu recevras un nocturne demain et vers la fin de la semaine, la ballade et la fantaisie. Je trouve qu'elles n'ont jamais assez de fini. » Alors ça, c'est très important, cette phrase. Il trouve que ses œuvres n'ont jamais assez de fini.
Voici donc un de ses nocturnes à 100 francs, où l'on retrouve bien ce souci du détail dans l'écriture. Il s'agit du nocturne opus 48 numéro 1 en do mineur. Alors on peut se poser la question sur la composition de Chopin. Il semble ne composer que pour le piano.
Ben non, ça c'est encore une légende de Chopin. Il n'a pas du tout composé que pour le piano, puisqu'il a composé des concertos pour orchestre. Il a composé des œuvres pour orchestre seul, en particulier les fameuses variations sur un thème de Mozart qu'on a écouté. Et puis il a composé des trios, il a composé des sonates pour piano, on le verra, une sonate pour piano et violoncelle qui est absolument extraordinaire. Et puis il a composé aussi des mélodies. Donc réduire Chopin à une composition pour piano, c'est singulièrement réduire son génie. Et alors, il est très sollicité, en particulier en Pologne, par un certain nombre de gens qui voudraient faire de lui une sorte de musicien national. Et on ne peut pas être musicien national sans faire un oratorio ou un grand opéra sur un thème polonais, de l'histoire de polonaise, etc. Et alors, tous ses amis le pressent de faire ça. Et alors, il en a un en particulier qui s'appelle Titus, dont on a beaucoup parlé dans la...
Son meilleur ami.
Qui était son meilleur ami, et qui était resté en Pologne comme agriculteur betteravier. Et il le pressait donc de faire un grand oratorio. Et voilà la réponse que Chopin donne. « Titus vient de me demander d'écrire un oratorio. Je lui ai répondu en lui demandant pourquoi il ne construirait pas un cloître de dominicaine plutôt qu'une fabrique de sucre. Le brave Titus possède encore une imagination de collégien. » Et alors, plus sérieusement, Chopin parle de cette question-là à son professeur Joseph Elsner, qui lui a tout enseigné, en particulier l'harmonie à Varsovie, quand il était jeune. Et voilà ce qu'il écrit. « Paris, le 24 juillet 1840, à Joseph Elsner. Bien cher monsieur Elsner, en vérité, de grandes œuvres comme votre oratorio coûtent cher à éditer et sont invendables puisque, sauf le conservatoire, aucun établissement ne joue d'ouvrages de ce genre. Quant au conservatoire, il ne vit que d'anciennes symphonies connues par cœur par l'orchestre et c'est un vrai bonheur pour le public s'il lui est donné d'y entendre parfois quelques fragments de Haendel ou de Bach. Depuis 2 ans seulement, on porte intérêt à Haendel et encore n'en est-il joué que des passages, jamais une œuvre complète. C'est ainsi que le chœur de Judas Maccabée et je ne sais plus quel chœur de Bach ont été exécutés plusieurs fois au cours de l'hiver dernier, mais en dehors de Jésus sur le mont des Oliviers de Beethoven, je n'ai entendu qu'une seule fois rien de grand ni de long qui n'a été donné ici depuis que j'y suis. Bien des nouveautés sont essayées aux répétitions du conservatoire, mais il règne un état d'esprit hostile à toutes les œuvres importantes, sauf à celles des grands morts. Le conservatoire donne le ton en ce qui concerne la grande musique. Ça, c'est un jugement sans appel. Le conservatoire donne le ton en ce qui concerne la grande musique.
Tout à fait. Alors, nous avons beaucoup évoqué Chopin, mais peu de George Sand et de ses séjours à Nohant. Ceci fera partie de notre prochaine émission. Merci de nous avoir suivis lors de cette 4e émission consacrée au bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin. Si une œuvre vous a plu et que vous n'avez pas eu le temps de noter sa référence, n'hésitez pas à nous écrire à communication@canalacademy.com ou bien la retrouver en bas du texte joint à l'émission. Je vous rappelle que cette émission est téléchargeable gratuitement sur le site de Canal Academy. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour notre 5e émission sur la vie de Frédéric Chopin. Merci Monsieur Grivois.
Mais je vous en prie, au revoir.
Au revoir.